13. L'aventure de la lavandière de nuit. Si nous ne courons pas au lavoir avant que notre bouche et nos yeux se ferment, il n'est personne si gonflé d'orgueil qu'à la mort il ne trouve plus fort que lui. Marc Abru. Ce jour-là, le bel églantier s'était sans succès échiné. Il cherchait depuis bien longtemps un bel et mystérieux enfant. Il allait de ferme en hameau, il allait de ville en château, il allait de tour en maison en quête d'un petit garçon. Il interrogeait les passants, il interrogeait les manants, il sollicitait les prieurs, il sollicitait les seigneurs. Comment est-il donc cet enfant? Voulaient savoir les bonnes gens. En retour, le bel églantier ne se lassait de répéter « Nul n'est comme lui à la ronde, c'est le plus bel enfant du monde !» Les mines s'épanouissaient et jamais quelqu'un ne manquait de lui vanter un chérubin plus charmant que les séraphins. Ainsi causait l'amour des mères et parlait la fierté des pères. Ainsi résonnait la rengaine des frères et sœurs et des marraines, des oncles, tantes et cousins et même parfois des voisins. Vainement le bel églantier cherchait-il à s'en assurer. Chaque visite aux angelots ne livrait que gentils marmots. Jamais quête plus compliquée n'aurait pu être effectuée. Le preux toupillait au hasard des rumeurs et des racontars. D'être si souvent dépité, plus d'un aurait abandonné. Mais le chevalier s'entêtait, mu par quelque dessein secret. Ce jour, comme les précédents, il avait été de l'avant, jusqu'en la vallée reculée où coule la Doube glacée. Il arriva en un finage où nul ne lui fit bon visage. Toutes les chaumières étaient closes et le bourg lui parut morose. Quand il voulait se renseigner, les gueux le fuyaient sans parler. Il s'en trouva plutôt fâché et se rendit au prieuré. Il y rencontra le doyen qui lui fit un accueil urbain et offrit l'hospitalité. Le saint homme était désolé du comportement de ses ouailles, c'était un manquement de taille. Il chercha à les excuser en arguant un fait singulier. Le renom du bel églantier les avait tous épouvantés, car, connu comme le loup blanc, il était en quête d'enfants. Le chevalier fut fort froissé qu'on le crût mal intentionné avec des bambins innocents. Le doyen nia cependant qu'on répandit telle infamie, on le savait sans vilenie, mais on craignait le grand danger que sa quête allait réveiller. Le chevalier en fut surpris, et demanda qu'on lui apprît la cause de ce mauvais sang. Le doyen était réticent à dire le fond du mystère, mais seul un fruste caractère aurait pu longtemps résister aux instances du chevalier. Le prêtre finit par céder et rapporta la vérité. Depuis qu'ont été exilés les embaumeurs du desséché, arrivent de terribles choses au bord de l'eau à la nuit close. Des crises et des vagissements nous sont apportés par le vent. Dessus l'autre rive, on entend des pleurs et des plaintes d'enfants. Bon nombre d'âmes charitables ont voulu être secourables. En dépit des premiers malheurs, elles ont dominé leur frayeur pour retrouver les enfants sons et leur accorder protection. Des nourrices s'y sont rendues. Une prieure est accourue. Des gars du cru au nerf solide et un chevalier intrépide. Oh, terrible fatalité! Pas un seul n'en a réchappé. On les a retrouvés noyés dans la Doube et ses flots glacés. Tous avaient les deux bras rompus, et même affreusement tordus. Après chacune de ces morts, les pleurs nocturnes étaient plus forts. Voilà pourquoi on vous a fui. Les gens ne sont point impolis, mais craignent qu'au bout du chemin vous connaissiez sombre destin. Ce conte et sa malignité frappèrent le bel églantier. Bien loin d'être découragé, sa curiosité fut piquée. Au lieu de sotte vantardise, il avait enfin la surprise qu'on lui parlât de maléfice. Il devinait là les prémices d'une piste très prometteuse. Dans ses recherches laborieuses, s'étant gardé de parler trop, il avait dit l'enfant très beau, mais tue son âme malfaisante. Aussi, cette histoire effrayante lui paraissait de bon augure. À si périlleuse aventure, il ne se déroberait point. Quoi que pût dire le doyen, à la vesprée, il mit l'armure et s'enfuit sur la route obscure en direction de la rivière. D'épais brouillards sourdaient de terre. La nuit coulait hors des lisières et la gelée fendait les pierres. Aux aguets, le bel églantier n'entendit rien pour commencer. Il fut effleuré par l'idée de cour des billevesées. Il s'apprêtait à tourner bride, quand lui parvint un son morbide. Des sanglots pleuraient dans le noir, en un cœur grêle et sans espoir. Sans défaillir, le chevalier marcha vers ses cris éplorés, mais trouva son chemin coupé par la Doubs aux flots emportés. Bien empêché, il s'arrêta, ne pouvant pousser par-delà. Un battage sourd retentit alors parmi les clapotis. Quelqu'un martelait en cadence. 1, 2 et 3 heures, puis silence. On frappait à faible distance. 1, 2 et 3 heures, puis silence. C'était presque un rythme de danse. 1, 2 et 3 heures, puis silence. Cette rumeur répétitive, provenant de sa propre rive, le bel églantier décida de remonter jusqu'au fracas. Au bout de 30 pas à peine, il chut sur une étrange scène. Dans la brume et dans les ténèbres, au milieu de plaintes funèbres, se courbait une lavandière, lavant son linge à la rivière. Un roc en guise de lavoir, et la main armée d'un battoir, elle tapait avec violence. 1, 2 et 3 heures, puis silence. Le chevalier, fort étonné, s'empressa de lui demander ce qu'elle faisait ainsi dehors, par la nuit noire, sur ses bords. La femme ne répondit ni. Peut-être était-elle assourdie de cogner avec véhémence. 1, 2 et 3 heures. Puis silence.
Ainsi donc, vous n'entendez point de ces enfants le grand chagrin ?
En conclut le bel églantier. Il fut aussitôt détrompé, car la femme arrêta son geste en poussant un soupir funeste. Se redressant de façon roide, elle parla d'une voix froide. Je les entends bien, voyageurs, et c'est la cause de ces pleurs.
Ah, vraiment ? Dit le chevalier. Pourriez-vous donc me l'expliquer ?
Il m'est loisible de le faire à défaut de les faire taire. Certains de ces enfants sont miens, d'autres sont passés par mes mains. C'est leur linge que je nettoie, mais je ne trouve plus la voie pour le rendre et les en vêtir. Il m'est interdit de dormir tant qu'ils vont, nus et bleus de froid, semer la tristesse et l'effroi. Mais ils sont là-bas, moi ici, et les habiller je ne puis. » Le bel églantier l'emblâma et sans réfléchir déclara « Eh bien, passez donc la rivière !» Lui répondit la lavandière « Je ne sais plus ni gué ni pont. J'ai fait passer force poupon, mais lorsque mon tour est venu, tous les chemins étaient perdus. Plus de prêtre dut dessécher pour guider de l'autre côté. Ne pouvant rendre ses effets, je ne saurais trouver la paix. Je bats ce linge de malheur en attendant quelques passeurs. Hélas, dit le bel églantier, je ne suis point clair ordonné. Vous m'inspirez grande pitié, mais je ne pourrais vous aider. En frissonnant, la buandière lui fit alors cette prière. Ô charitable voyageur, tu peux me faire la faveur de tordre ce linge avec moi. Grâce à ton aide, il séchera plus vite et plus facilement. Dès que viendra un révérend, je tiendrai ma corbeille prête et je pourrai faire retraite quand j'aurai eu l'absolution pour mon acte de contrition. Bien que la tâche dérogeât, le bel églantier estima qu'il lui incombait le devoir d'aider la pauvre âme au lavoir. Après avoir mis pied à terre et fait face à la lavandière, il la trouva bien moins accorte, mais étonnamment grande et forte. Et voici que d'un geste brusque, Elle tendit de vieilles frusques. Le fantôme et le chevalier saisirent chaque extrémité, tordirent la toile gorgée dont fuit la lavure glacée. Le preux sentit ses mains transies et vit trop tard la félonie, car un sortilège enroulait le drap autour de ses poignets. Il chercha à se dégager, il lutta pour se libérer, mais fit en vain tous ses efforts car le spectre serrait plus fort. Le faciès mort devint atroce et sourit de façon féroce. « Je ne puis franchir la rivière, » dit la terrible lavandière. « Mais toi, je saurais t'envoyer très vite de l'autre côté pour t'occuper de mes enfants et partager tous leurs tourments. » Le chevalier eût pu jurer que l'entrave était en acier. Elle ne cessait d'écraser ses poignets presque disloqués. Il lui fallait improviser d'autres moyens de se sauver. « Ah ! » cria-t-il, « âme perfide, ce procédé est fort stupide !» Car en me rompant les deux bras et en me vouant au trépas, vous abandonnez mon concours et vous privez de tout secours. Ne m'as-tu dit, sot chevalier, que tu ne pouvais pas m'aider? S'il est tout à fait véridique que je ne puis donner viatique, j'ai peut-être d'autres moyens pour que vous touchiez à vos fins. Hâte-toi donc de discourir, car tu es bien près de mourir. Sachez, maudite lavandière, que vous passerez la rivière. « Pour cela, il faut me lâcher, car j'ai un vaillant destrier qui ne répond qu'à ma gouverne. Sans moi, vous laissera en berne. Sa foulée n'a pas de pareil. Il est capable de merveilles, et si je puis tenir les rênes, alors il bondira sans peine loin au-dessus du flot furieux en nous emportant tous les deux. Vous toucherez à l'autre rive et à votre nichée plaintive. » Pour grand nombre d'esprits errants, il est admis communément que l'eau vive barre passage. Aussi, malgré ses lessivages, le spectre éprouva un scrupule à enfourcher ce véhicule. « Qu'avez-vous donc à barguigner ?» insista le bel églantier. « Si vous les aimez tendrement, il faut rejoindre vos enfants. » « Soit, » concéda la lavandière. « J'y consens et je te libère. » Mais je te serrerai de près et tous tes os seront défaits si tu t'écartes de la rive. » Feignant une mine craintive, le preux s'empressa d'acquiescer. Ses bras étaient trop malmenés pour qu'il pût user de l'épée, aussi suivit-il son idée. Il se remit alors en selle avec l'horrible damoiselle assise en croupe contre lui. Il avait le dos tout transi par l'étreinte dure et osseuse du revenant de la laveuse. Piquant des deux son bon cheval qui prit un galop infernal, il leur donna un grand élan, et puis, au tout dernier moment, comme le destrier sautait, il tira les rênes en secret. Pour conclure sa cavalcade, le cheval fit grande ruade, le bel églantier se retint à son arçon à pleine main. Mais la défunte, stupéfaite, s'envola cul par-dessus tête et plongea droit dans la rivière. L'eau vive ébouillant à la morte qui hurla comme une cohorte. « Mille excuses, » rit le roué. « Je me crois trop bon cavalier. Au moins, vous êtes à mi-chemin. Je vous abandonne le soin de parcourir l'autre moitié. Voyez ce beau ciel étoilé. Je garderai le cœur ravi de ce galant bain de minuit. »